De quoi rougir un peu plus. Alors, la pensée féminine peut-elle vraiment apporter quelque chose à la philosophie et à la théologie ? Je ne suis pas apte à vous parler d'Edith Stein, puisque notre sœur Edith serait bien plus à même de le faire. Mais elle constatait, Edith Stein, que dans la pensée commune, la femme avait sa place à la maison et qu'elle n'était bonne à rien d'autre. Et elle ajoutait, il a fallu de longs et difficiles combats pour parvenir à élargir un terrain d'action devenu trop étroit. Les temps ont changé, mais parfois, constatait le cardinal Ratzinger, la femme, pour être elle-même, s'érige en rivale de l'homme. Aux abus de pouvoir, elle répond par une stratégie de recherche du pouvoir. Ou encore, Jean-Paul II, elle cherche à s'approprier les caractéristiques masculines au détriment de sa propre originalité féminine, risquant ainsi de déformer ou de perdre ce qui constitue sa richesse essentielle. Les ressources personnelles de la féminité ne sont certes pas moindres que celles de la masculinité, mais elles sont seulement différentes. Nous commencerons d'abord par voir comment Jésus a agi pour révéler son mystère aux femmes. Puis nous essayerons d'approfondir un peu plus cette pensée féminine et enfin quelques témoignages. Alors vous connaissez tous les écrits de Jean-Paul II et de Benoît XVI, mais je vous rappellerai certains d'entre eux. D'abord, l'attitude de Jésus dans les évangiles. Regardons comment Jésus agit envers les femmes qu'il a rencontrées. Nous retrouvons cela dans l'exhortation de Jean-Paul II sur la dignité de la femme. Jean-Paul II note que les femmes rencontrées dans l'Évangile sentent que Jésus leur parle de questions qui, à cette époque, ne se traitaient pas avec des femmes. L'exemple, en un sens le plus significatif à ce sujet, est celui de la Samaritaine au puits de Sichem. Jésus, qui sait d'ailleurs qu'elle est aussi pécheresse, et il le lui dit, en réalité lui parle des plus profonds mystères de Dieu. Alors vous connaissez ce texte, la femme se situe à un plan très concret, elle vient chercher de l'eau, très matériel, elle se demande où adorer Dieu. Mais Jésus va l'entraîner dans son mystère et il lui révèle enfin qu'il est lui-même le Messie. Et puis la réalité profonde du vrai culte rendu à Dieu, pour lequel le lieu importe moins que l'attitude d'adoration et en esprit et en vérité. Je vous cite encore Jean-Paul II. Le Christ parle aux femmes des choses de Dieu et elles les comprennent dans une réceptivité authentique de l'esprit et du cœur, dans une démarche de foi. Devant cette réponse tellement féminine, Jésus montre son estime et son admiration, comme dans le cas de la Cananéenne. Parfois, Jésus donne en exemple cette grande foi imprégnée d'amour. En somme, il donne un enseignement à partir de cette adhésion féminine de l'esprit et du cœur. Jean-Paul II fait aussi remarquer à propos de la résurrection de Lazare que c'est à Marthe que Jésus révèle le mystère de sa mission. Il lui dit « Je suis la résurrection et la vie. Qui croit en moi, même s'il meurt, vivra. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. » Et le mystère pascal, ajoute Jean-Paul II, est contenu dans ses paroles adressées à une femme. Vous connaissez aussi l'apparition de Jésus aux disciples d'Emmaüs. Il leur expliqua longuement tout ce qui le concernait dans les Écritures à partir de Moïse et des prophètes. Et ce n'est qu'après s'être arrêtés pour le repas qu'ils le reconnurent au partage du pain. Pour Marie de Magdala, au matin de Pâques, il suffit d'un mot, Marie. Et immédiatement, elle le reconnaît. Nous pouvons voir ainsi deux façons différentes d'adhérer au mystère. L'une davantage par l'intelligence, la réflexion, et l'autre davantage par le cœur. Et cette adhésion de la femme par le cœur lui donne la force de dépasser sa peur, et elle ira jusqu'au pied de la croix. En reprenant ses apparitions au matin de Pâques, le bienheureux pape Jean-Paul II écrit « Cet événement, en un sens, est comme le couronnement de tout ce qui a été dit précédemment sur la transmission par le Christ de la vérité divine aux femmes sur un pied d'égalité avec les hommes. » Tout ce qui a été dit ici sur l'attitude du Christ à l'égard des femmes confirme et éclaire dans l'Esprit Saint la vérité sur l'égalité de l'homme et de la femme. On doit parler, poursuit toujours Jean-Paul II, d'une radicale parité, étant donné que tous deux, la femme comme l'homme, sont créés à l'image et à la ressemblance de Dieu. Tous deux sont au même titre susceptibles de bénéficier de la vérité divine et de l'amour dans l'Esprit Saint. Après avoir vu comment Jésus a agi avec les femmes de son temps, essayons de voir un petit peu plus ce propre de la pensée féminine. Nous devons, vous savez, à Jean-Paul II, cette expression « le génie féminin ». Je fais une citation, « Ce n'est pas sans raison, dit Jean-Paul II, qu'on parle du génie féminin. Ce que j'ai écrit jusqu'ici confirme le bien fondé de cette expression. » Alors, si nous recherchons la définition de génie, nous trouvons qualité des esprits supérieurs qui les rend capables de créer ou d'inventer, ou bien talent inné, exceptionnel, ou simplement un caractère propre et distinctif. Vous choisissez. Nous devons aussi à ce grand pape l'expression « sentinelle de l'invisible ». Vous vous rappelez quand il est venu à Lourdes en 2004. « À vous les femmes, dit-il, il revient d'être sentinelle de l'invisible. » Cette expression peut, à mon avis, rejoindre ce très beau discours de Benoît XVI aux Bernardins, où il disait « L'attitude vraiment philosophique, c'est regarder au-delà des réalités pénultièmes et se mettre à la recherche des réalités ultimes qui sont vraies. » Peut-être ces réalités de l'invisible. La femme, il faut le reconnaître, est davantage tournée vers le concret, comme nous le rappelle Edith Stein. La manière de penser de la femme, ses intérêts, sont orientés vers ce qui est vivant, personnel, vers l'objet considéré comme un tout. Protéger, garder, défendre, nourrir, faire grandir, voilà les besoins profonds d'une femme. Ce sont des besoins maternels. Ce qui n'a pas de vie, la chose, l'intéresse seulement en tant que nécessaire à la personne, pas en elle-même. Cette attitude pratique de la femme amène à constater quelque chose de semblable sur le plan théorique. La manière naturelle de connaître de la femme n'est pas aussi conceptuelle que plutôt contemplative, expérimentale, orientée vers le concret. Le cardinal Ratzinger écrivait « Parmi les valeurs fondamentales qui sont rattachées à la vie concrète de la femme, il y a ce qui est appelé sa capacité de l'autre. Cela développe en elle le sens, le respect des choses concrètes qui s'opposent aux abstractions souvent mortifères pour l'existence des individus et de la société. » Mère Marie-Augusta et notre Père disait qu'il fallait des idées vécues et qui font vivre. C'est peut-être peut-être plus proche de ce que vit la femme. La femme, en principe, est beaucoup plus sensible et intuitive que l'homme. Elle adhère au mystère par le cœur, comme nous l'avons vu précédemment avec Marie-Madeleine. Mais attention, ce n'est pas tout rien. J'avais dû préparer un texte et j'avais demandé au père de le corriger. Et ce texte, j'avais fait une citation de la lettre de saint Paul aux Éphésiens. Vous savez, le mari est la tête. Voilà. Et le père avait rajouté...
Non, le père, c'est le
fondateur. Notre père fondateur, oui. Donc, si l'époux est la tête, reliée à un cœur amoureux, la femme est naturellement le cœur, mais un cœur capable de comprendre et d'adhérer de tout son cœur. Il a écrit ça. Voilà le bel équilibre de notre Père fondateur. Rappelons-nous aussi que ces disciples d'Emmaüs, dont nous avons déjà parlé, il leur avait fallu beaucoup de temps pour reconnaître Jésus, mais eux aussi reconnaissaient « Notre cœur n'était-il pas brûlant en nous ?» tandis qu'il nous parlait sur la route et qu'il nous faisait comprendre les Écritures. Vous voyez, l'équilibre, ce n'est pas tout, rien. Ce n'est pas la femme seulement le cœur sans tête, et l'homme, ce n'est pas la tête sans cœur. Alors, est-ce que la pensée féminine peut apporter quelque chose? Quelques exemples dans l'histoire qui peuvent peut-être vous surprendre. Vous savez que trois femmes ont été déclarées docteurs de l'Église. Vous savez par cœur leur nom. Thérèse d'Avila, Catherine de Sienne et la dernière, Thérèse de l'Enfant Jésus. La nature de leur enseignement est profondément féminin, enraciné dans la vie et tirant d'elle forme et contenu. On peut observer que si les docteurs hommes, enfin docteurs de l'Église hommes, qui sont les plus nombreux, nous enseignent l'amour de la vérité, on peut dire peut-être que les docteurs de l'Église femmes nous enseignent la vérité de l'amour. Au cours des siècles, Dieu a comblé de dons de science et de sagesse des femmes. Eh oui, des femmes humbles et parfois illettrées comme Catherine de Sienne. Paul VI écrivait « Ce qui frappe plus que tout dans cette sainte, c'est la sagesse infuse, c'est-à-dire l'assimilation brillante, profonde et exaltante des vérités divines et des mystères de la foi. Une assimilation, certes, favorisée par des dons naturels exceptionnels, mais évidemment prodigieuse, due à un charisme de sagesse de l'Esprit-Saint. Les mystiques ont une expérience de Dieu hors du commun, et parfois au-delà même des concepts et des discours. Ainsi, Catherine de Sienne avoue, si je racontais ce que j'ai vu avec les pauvres mots de notre langage, il semblerait que je blasphème Dieu, que je parle contre sa gloire. Car il y a une telle différence entre ce que l'intelligence connaît et comprend d'une manière si élevée et ce qui peut se dire avec nos paroles défectueuses qu'il me semble que ce soit chose contraire. Et puis, une autre mystique qui n'est pas encore docteur de l'Église, qui n'est pas encore déclarée sainte, Marthe Robin. Elle a essayé d'expliquer ce qu'elle expérimentait au niveau de la connaissance et de l'amour. Et elle disait, « Qu'y a-t-il de plus vrai, de plus magnifiquement beau que le dogme? que j'aimerais étudier pour pénétrer dans la profondeur des mystères. Parfois, j'envie ceux qui ont le bonheur de faire de la théologie. Mais l'oraison, la divine contemplation ne dépasse-t-elle pas de bien haut en connaissance, en amour, en puissance, les plus fortes études? L'expérience est plus profonde, plus lumineuse, plus féconde que la science. Pour moi, toute ma théologie, toute ma science, c'est l'amour, l'union de mon âme à Dieu par Jésus-Christ avec la Sainte Vierge. Rien de plus, rien de moins. Une âme peut être ignorante en beaucoup de choses et être capable de savoir aimer Dieu splendidement. Elle recevait même des lumières pour aider des théologiens. Vous connaissez le père Manteau Bonamy, qui était venu la voir pendant qu'il travaillait à sa thèse de doctorat sur le thème « Maternité divine et incarnation ». Et Marthe, avec une netteté, lui indique une voie nouvelle pour son travail. Et c'est là qu'elle lui dit « Marie est la divine maternité, comme elle est l'Immaculée Conception ». Elle reprenait ce qu'elle avait déjà expliqué à un autre théologien, le père Garrigou Lagrange. Et elle précédait d'une vingtaine d'années ce que le Concile développera dans le chapitre 8 de Lumen Gentium sur la Vierge Marie. Les lumières que les mystiques ont reçues ne sont pas pour elles seulement, mais elles doivent enrichir toute l'Église qui est conduite par l'Esprit de vérité. À propos de la plus jeune docteure de l'Église, qui est Thérèse de l'Enfant Jésus, je reprends ce que Benoît XVI avait pu dire. Malgré sa formation insuffisante et l'absence d'instruments pour l'étude et l'interprétation des livres saints, Thérèse est immergée dans la méditation de la parole de Dieu avec une foi et une connaturalité singulière. Sous l'influence de l'Esprit, elle est parvenue pour elle-même et pour les autres à une connaissance profonde de la révélation, en se concentrant amoureusement sur l'Écriture. Vous savez qu'elle aurait même voulu faire de l'hébreu, connaître le grec pour mieux comprendre l'esprit et la lettre des livres saints. Elle a montré l'importance qu'ont les sources bibliques dans la vie spirituelle. Elle a même mis en relief l'originalité, la fraîcheur de l'Évangile. Elle a cultivé sobrement l'exégèse spirituelle de la parole de Dieu, de l'Ancien comme du Nouveau Testament. Elle y a découvert des trésors cachés. Et Thérèse est une femme qui, en abordant l'Évangile, a su déceler des richesses cachées avec un sens du concret, une profondeur d'assimilation dans la vie et une sagesse qui sont propres au génie féminin. Ce sens du concret, cette profondeur d'assimilation dans la vie et cette sagesse qui est propre au génie féminin. C'est l'heure. À partir de ces brèves évocations, nous voyons que la théologie peut également recevoir une contribution particulière des femmes, car elles sont capables de parler de Dieu et des mystères de la foi à travers leur intelligence et leur sensibilité particulière. Je vous cite Benoît XVI. Elles ont une théologie davantage expérimentale, narrative, mystique, concrète, ce qui n'exclut pas le raisonnement, mais fait voir les choses différemment. Elles sont plus intuitives et vont peut-être plus loin dans l'amour. Et en terminant, comment ne pas mentionner celle qui a le mieux pénétré le mystère divin, la Vierge Marie, trône de la sagesse.